Je propose que l'on ouvre cette séance conférence de presse. Je voudrais d'abord vous souhaiter la bienvenue, vous remercier d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Je le dis souvent et je le dis même plus que jamais, les presses que vous représentez, nous en avons besoin. Pour moi, refaire le lien avec la population, avec les citoyens, avec les personnes que l'on représente, c'est quelque chose d'essentiel. Et là, il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire. Donc, on va parler de la résolution visant à l'interdiction, un moratoire sur les pesticides de la famille des néonicotinoïdes. Les personnes se présenteront tout à l'heure. Je ne travaille plus tout seul. Et je ne travaille pas que avec des politiques. Au fil de mon expérience de sénateur, donc je suis Joël Labbé, sénateur écologiste du Morbihan. Avant j'étais maire, conseiller général, j'étais destiné à être un élu local et cela définitivement. Et j'ai été candidat. Alors quand on est candidat, on prend le risque d'être élu. Et ce risque m'est tombé dessus. Donc depuis 3 ans, je suis sénateur. Et donc dans cette maison du Palais du Luxembourg, où j'ai trouvé mes marques, ma place, avec le ton qui est le mien. C'est une maison qui est respectueuse dès l'instant que l'on travaille, dès l'instant qu'on est au clair, et donc j'ai la chance de bénéficier du respect de mes collègues sénatrices et sénateurs. Je ne savais pas trop bien comment tout ça marchait. Eh bien, tout en étant différent par rapport aux différentes codes et protocoles et tout ça, eh bien, on peut fonctionner ici. La première mission à laquelle j'ai participé, c'est la mission d'information sur les pesticides et leur impact sur la santé humaine. Il y avait un deuxième volet qui devait être l'environnement. On en a eu tellement sur la santé humaine, 7 mois de travail, qu'on n'a pas encore pu aborder le volet environnement. Et donc là, j'avais certaines convictions par rapport aux produits pesticides en général. J'ai été extrêmement conforté, si on peut, enfin, dans mes convictions, à savoir sur la dangerosité, sur la toxicité de ces produits qu'on ne peut appeler autrement que poison. Alors moi, je ne suis pas un intégriste. Dès l'instant que l'on maîtrise les choses, que l'on maîtrise les effets, donc il y a certaines utilisations, parce que des pesticides qu'on peut appeler aussi pesticides naturels peuvent être utilisés, tout est une question d'équilibre. Ces pesticides chimiques brisent l'équilibre. Alors il y a un exemple qui a déjà été évoqué, mais que j'aime à rappeler pour ceux qui ont plus de 20 ans. Les autres ne peuvent pas connaître, hélas. À savoir, il y a 20 ans encore, on faisait 500 km en voiture, le pare-brise était maculé d'insectes écrasés sur le pare-brise. Tout le monde fait l'expérience maintenant, on fait 500 km, on n'a pas de problème au niveau du pare-brise. Là, c'est un symptôme absolument dramatique de la perte globale de biodiversité. Dramatique. Et ça, tout le monde en fait l'expérience. On aura beau nous faire les calculs, tous les calculs que l'on veut. Alors, il y a un insecte très particulier qui joue un rôle essentiel en agriculture, mais par rapport à l'ensemble de la biodiversité, c'est l'abeille. Alors on parle beaucoup de l'abeille parce qu'elle fait aussi le miel, il y a un aspect économique, mais il y a aussi les autres insectes pollinisateurs qui l'accompagnent pour jouer ce rôle de pollinisation qui économiquement a une très forte valeur ajoutée. Je ne vais pas reciter Einstein, mais l'abeille, on en a besoin. Et là, on a été alerté. Et le gouvernement français a été exemplaire il y a 3 ans en saisissant la Commission européenne pour demander à ce que trois molécules néonicotinoïdes soient interdites à certaines périodes. Mais je laisserai aux spécialistes le loisir d'en parler. Mais il y a eu une étude de l'année dernière qui est sortie juste après le dépôt de la résolution. Pourquoi la résolution? Alors, je reviens, l'émission pesticides, je l'ai faite. Ensuite, je me suis dit, comme je ne suis pas un mec carriériste, j'essaie de faire quelque chose. Et par rapport à la mission pesticides, parmi les recommandations, il y avait si on peut éviter les pesticides, dans certains domaines, il faut qu'on les évite. Et moi, il se trouve que j'étais maire de la commune de Saint-Nol dans le Morbihan, et depuis 2007, on était à zéro pesticide sur les espaces publics. Donc, je me suis, et 10% des communes françaises avaient fait cette expérience et avaient démontré que c'était possible. Et donc, j'ai annoncé cette proposition de loi interdisant les pesticides sur les espaces publics des communes et interdisant aussi les pesticides à la vente au détail pour les jardins domestiques. Et cette loi, pas contre toute attente, parce qu'on a travaillé, on a réussi à trouver une majorité, elle a été adoptée définitivement début 2014. Certains disaient, bon, l'abbé, il est content, il a mis son nom sur une loi. Alors moi, ça, c'est pas mon affaire, c'est un pas, mais je ne m'arrêterai pas là. Et j'ai travaillé, donc, comme je m'intéressais aux pesticides pour essayer de faire comment on peut les éviter, j'ai travaillé tout d'abord avec l'Union nationale des apiculteurs français qui m'avait saisi. Et dans cette maison, on a aussi la possibilité et les moyens d'organiser des colloques. Et chaque année, j'organise un colloque. La première année, c'était sur l'agroécologie, avec une partenaire qui s'appelle Marie-Monique Robin, qui s'y connaît un petit peu dans le domaine. Et donc, on avait fait un colloque juste avant les travaux sur la loi d'avenir agricole. Lesquels travaux on a bien menés en relation avec le ministère de l'Agriculture, plutôt bien menés, même si on a pu avoir des avancées, nous les écologistes, même si c'est pas allé aussi loin qu'on l'aurait souhaité, la tendance est donnée vers l'agroécologie et ça nous convient bien. L'année dernière, colloque sur l'abeille et l'intitulé était pour une agriculture respectueuse des pollinisateurs. Et en toile de fond, il y avait ces insecticides néonicotinoïdes. Et on a travaillé une résolution et on a décidé de la déposer. Donc c'était un parlementaire, moi-même. Donc je l'ai déposé au Sénat. Je me suis rapproché de mon collègue de l'Assemblée Germinal Perrault, député socialiste de Dordogne, qui a déposé la même à l'Assemblée. Cette année, pour la petite histoire, c'est la question des huîtres. Pour lesquels j'organise un colloque en juin. La question, on va pas se disperser, ce sera les huîtres. Et donc cette résolution interpellant le gouvernement français pour faire l'Europe, la Commission européenne, interdire ces pesticides néonicotinoïdes, elle va être discutée mercredi 4 février prochain, donc je vais la porter, elle va être débattue. Avec une question, pourrons-nous avoir une majorité ou pas? En conclusion, je vous dirai quelle stratégie particulière j'ai adoptée, stratégie au sens noble du terme, ce n'est pas une stratégie politicienne. Voilà, alors on parlait des abeilles, et pour en finir, juste après, après que j'ai déposé la résolution, on en avait déjà connaissance, mais la méta-étude a été publiée. 29 chercheurs et scientifiques ont mené une étude sur 15 pays différents, croisant 800 études, les conclusions de 800 études. Et là, le bilan est absolument redoutable. Certes, il y a les abeilles et les pollinisateurs, et ça suffirait déjà à aller vers les interdictions. Mais maintenant, cette étude prouve que c'est l'ensemble de la faune du sol qui est touchée. De la vie microbienne du sol, les vers de terre avec tout le rôle qu'ils peuvent jouer en agriculture et dans la qualité, la fertilité des sols, tout ce monde-là est mis à mal. Et donc je m'appuie sur cette étude post-dépôt de la résolution pour interpeller mes collègues. Voilà, alors. À table, il y a l'Union nationale des apiculteurs français, il y a Génération Future, il y a la Fondation Nicolas Hulot, Greenpeace, et puis la Confédération paysanne. À tour de rôle, ils vont prendre la parole parce que, comme je vous disais, que je ne travaille pas tout seul, je travaille avec eux, et ils sont les représentants quelque part de la société civile organisée avec leur expertise. Et c'est la raison pour laquelle ce n'est surtout pas qu'une affaire de politique entre nous, c'est l'affaire de tout le monde, c'est l'affaire de la population. Et je tiens à saluer la richesse de l'expertise, qu'il soit professionnel ou ONG, sur ces sujets-là. Je crois qu'ils disent avoir la chance de trouver des relais politiques pour porter leurs préoccupations. Et moi, en tant que politique, pour jouer mon rôle politique, j'ai cette chance énorme de pouvoir m'appuyer bien sur la société civile organisée et l'expertise que vous représentez. Alors, parmi les absents, Jean-Marc Bonmatin, le professeur Jean-Marc Bonmatin, c'est au CNRS qu'il est, hein, d'Orléans, qui est un grand spécialiste de l'abeille et de la santé de l'abeille, lui a participé à cette méta-étude. Donc il aurait aimé être là, il ne peut pas. Et puis je comptais vous faire une surprise aujourd'hui, parce que j'ai passé une heure au téléphone avec lui dimanche dernier. Il parraine moralement l'opération. Il aurait aimé être là, il ne peut pas être là. Il s'appelle Pierre Rabhi. Pour moi, fait partie de ces belles pensées qui doivent guider nos choix politiques vers un avenir qui soit durable. Je vous passe la parole d'abord à l'UNAF. Et moi, je conclurai par une lettre ouverte au sénateur.
Ben merci. Donc, on va parler principalement, enfin moi, ce qui me concerne, ce sera les néonicotinoïdes, hein, non, peut-être barbares, pas toujours évident à prononcer. Donc, ce sont des molécules neurotoxiques, hein, et on les trouve, c'est fait pour tuer les insectes, mais qu'on se le dise bien, l'abeille c'est un insecte, donc elle n'y échappe pas. Hein. Ces molécules sont apparues sur le marché en 1994 environ. Les apiculteurs, au début, se sont posé des questions devant ces nouvelles molécules, du fait en plus qu'elles étaient utilisées qu'en petite partie au début. Il y avait une parcelle par-ci, une parcelle par-là. Certains voyaient des choses, comprenaient pas ce qui se passait, mais interpellaient autour d'eux. Mais très vite, dès la montée en puissance de ces produits-là, on les a bien pointés du doigt, on les a bien identifiés, étant responsables de l'effondrement des colonies d'abeilles. Bon, l'histoire aujourd'hui a bien avancé et montre qu'on n'avait pas tort sur ce qu'on avait vu. Ce produit-là est globalement utilisé en traitement des enrobés des semences. Qu'est-ce que c'est? Donc la graine, elle est enrobée par un cocktail de produits et dedans, elle est chargée en néonicotinoïdes. Et cette particularité-là fait que le produit va remonter tout au long de la vie de la plante, tout au long de la croissance de la plante et va pouvoir affecter l'abeille à différents moments de l'existence de la plante. Donc au moment où la plante est relativement jeune, elle a un feuillage tout tendre. Les abeilles étant des grosses consommatrices d'eau vont aller sur le feuillage chercher de l'eau. Et les abeilles n'ont pas, je dirais, préfèrent plus les gouttes que la plante va sécréter. On appelle ça la guttation. C'est des plantes chargées en sels minéraux et en protéines. Si elle a le choix entre la rosée ou ça, elle va prendre ces fameuses petites gouttelettes d'eau que la plante rejette. On pourrait dire la plante transpire en quelque sorte. On les trouve à la périphérie de la feuille. Le problème, c'est que les analyses ont montré, c'est que ces fameuses gouttelettes d'eau-là privilégiées par l'abeille sont 100 fois supérieures à ce que l'abeille peut encaisser. Donc, vous voyez les dégâts que ça peut occasionner tout de suite sur les colonies. Après, dans la croissance, l'abeille va trouver ça au niveau du pollen et des nectars. Là aussi, ça s'avère mortel pour l'abeille. Donc, tout au long de la plante, tout au long de la vie de la plante, l'abeille va se trouver affectée par ce traitement-là. Et ce qui est aussi, je dirais, un peu gravissime, c'est la rémanence de ce type de produit. Ça a une rémanence très forte sur plusieurs années, et une culture à fleurs mise par la suite sur un sol qui a été chargé de cette substance-là, s'avéra toxique lui aussi, va être toxique pour les pollinisateurs qui viendront dessus. Donc c'est pas un cadeau. Hein. Alors le rôle de l'abeille aussi, il faut quand même qu'on se dise, les abeilles c'est quand même un service gratuit aujourd'hui qui est offert à tout le monde, offert à l'agriculture, mais offert aussi bien aux particuliers. On a des chiffres quand même qui sont assez conséquents. Au niveau mondial, c'est 153 milliards d'euros que ça rapporte. C'est quand même pas négligeable par an. Et pour la France, c'est 2 milliards d'euros. Donc c'est quelque chose sur lequel on doit bien regarder. Ça pèse quand même. Et dans notre alimentation, c'est loin d'être négatif. Dans notre alimentation, l'abeille, elle apporte à peu près 35% de notre alimentation. Et 65% au niveau de l'alimentation sur la variété de produits qu'on peut consommer. Donc c'est quelque chose qui est loin, loin d'être négligeable. Vous voyez, un bon tiers de notre alimentation en dépend, ça pèse lourd. Et je m'offrirai une petite parenthèse sur le sujet. On devrait mettre, je dirais, un peu plus encore la lumière sur l'abeille cette année, parce que cette année, c'est l'exposition universelle à Milan, et le thème de l'exposition, c'est agriculture et alimentation. Quand on sait que l'abeille pèse plus d'un tiers dans l'alimentation, je crois qu'elle aurait sa place là aussi à l'exposition universelle. J'ose espérer qu'on en parlera un peu plus. Donc, les différentes expositions donc des abeilles, je vous ai dit, c'est tout au long de la croissance de la plante, mais aussi les poussières transportées. Parce que quand un sol a été chargé en néonicotinoïdes, il ne faut pas croire que ça va rester rien que dans le champ qui a été traité. Tout le monde a en image, par exemple, le sable du Sahara qu'on peut retrouver sur nos voitures. Hein, ça fait plusieurs milliers de kilomètres, ça se déplace, c'est porté par les vents. Mais quand on regarde la taille d'un grain de sable qui arrive du Sahara jusqu'à Paris, voire ailleurs, c'est un monstre en taille à comparer de ces produits-là. Donc, c'est parce que certains nous disent, non, on l'a mis dans le champ, ça bougera pas du champ. Quand on laboure les sols, quand on remue, quand il y a du vent, ben là aussi ça part et ça se disperse à droite et à gauche. Donc les abeilles, après, les retrouvent un peu partout aussi, abeilles comme l'être humain et tout. Donc, c'est quand même très, très nocif. Et donc, dans les eaux, on les retrouvera aussi bien dans une flaque d'eau, même s'il n'y a pas eu de culture avoisinante, transportée, comme je vous le dis, par le vent, tous ces déplacements-là. Alors, les apiculteurs aussi, là-dessus, donc, comme vous le savez, ont de gros déboires depuis pas mal d'années sur leur colonie d'abeilles. En gros, on estime que depuis à peu près 1994, dans les années qui ont suivi, on perd globalement 300 000 colonies d'abeilles par an. C'est loin d'être négligeable. Donc l'apiculture aujourd'hui est obligée de renouveler constamment son cheptel pour le maintenir à flot, au détriment de la récolte, parce que, pour ceux qui connaissent un peu, quand vous divisez une ruche pour multiplier des colonies, c'est au détriment aussi de votre récolte. Ça aussi, ça faut le savoir. Il y a peut-être encore un cheptel, mais il est porté à bout de bras par les apiculteurs qui travaillent sans relâche pour maintenir leur cheptel. Et certains aujourd'hui, c'est vrai, commencent à être très fatigués de ça, déjà au niveau endettement, parce qu'il y a beaucoup de dépenses engagées pour maintenir un cheptel en vie. Mais quand ils rapportent pas derrière, et ben, les gens, excusez-moi, mais ils mettent la clé sous la porte rapidement. Et ça, c'est quelque chose de très grave. Pour vous dire un peu sur les récoltes de miel, disons qu'en 20 ans, elles ont été divisées plus que par deux. Donc ça aussi, c'est quand même quelque chose qui pèse lourd dans le décor. De 40 000 tonnes qu'on produisait, je dirais, avant la venue de ces néonicotinoïdes, on en est passé à 20, même bien en dessous. Cette année, il était même une année encore bien plus, je dirais, mauvaise. On a eu à peine 10 000 tonnes, aux alentours de 10 000 tonnes sur les 40 000 qu'on avait il y a une vingtaine d'années. Donc on voit bien que ça continue inlassablement à descendre. Et là-dessus, je crois que sur ces fameux produits, les apiculteurs, je vous l'ai dit, avaient été un peu des témoins de ce qui se passait, ont alerté dès le début. Les scientifiques là-dessus, c'est vrai, je pense que d'autres personnes que moi en parleront un peu plus, mais les scientifiques nous sont venus en aide, nous ont apporté la preuve que de l'infiniment petit pouvait faire de gros dégâts. Et ça, on en a tous, je pense, parfaitement conscience aujourd'hui, et ça, malheureusement, ça perdure. Alors, je vais vous citer aussi les luttes, les combats que mène l'UNAF, l'Union Nationale de l'Apiculture Française. Hein. Donc, le 25 novembre 2014, pour résumer les derniers, parce qu'on pourrait, la liste pourrait être longue autrement, hein, l'UNAF a fait une lettre ouverte au ministère de l'Agriculture pour l'interpeller sur les mortalités qu'il y a eu dans les Pyrénées-Orientales. Il y a eu une vraie hécatombe là-bas. Et ce qu'on demande, c'est que les apiculteurs soient aidés, mais vraiment aidés, quoi. Pas des discours, pas des paroles, mais qu'il y ait quelque chose de concret pour venir en aide à ces apiculteurs qui sont, faut le dire, sinistrés. Le 22 décembre 2014, là toujours plus près de nous, nous sommes intervenus et nous avons répondu à la consultation publique sur l'arrêté du 28 novembre 2003 relatif à la mention abeille, qui était un peu une confusion dans les esprits sur les traitements qui étaient permis. Et donc là aujourd'hui il y a eu comme une évolution, il faut le reconnaître, hein, les traitements devront se faire de nuit, hormis on a quand même quelques réserves parce qu'a priori ce ne serait pas le cas pour le maïs et pour la vigne. Et là-dessus on sait très bien, vous avez entendu parler, que le maïs fait aussi des dégâts. Et ça nous paraît quelque part inadmissible parce que les éléments mis en avant, travailler de nuit sur un champ de maïs c'est difficile, quand vous les voyez récolter le maïs à l'automne, ils travaillent de nuit aussi bien dans les champs. Hein. Je veux dire, on voit les machines travailler de nuit dans les champs. Hein. Et donc, encore plus près de nous, nous avons envoyé une lettre au ministre de l'Agriculture sur le fameux plan Ecophyto, là-dessus, parce que franchement, là, on s'interroge sur la volonté du ministre de réduire de manière drastique les pesticides. Aujourd'hui, ce qu'on voit quand même n'est pas à la hauteur de nos attentes. C'est même très décevant, je dirais. Hein. Donc... Et aussi l'UNAF, au niveau de la Commission européenne, intervient au niveau de... Parce que vous savez que la Commission européenne a suspendu pour 3 ans certains néonicotinoïdes, et les grandes firmes comme Bayer, Syngenta et BASF attaquent là-dessus, en justice au niveau de l'Europe, et l'UNAF sera à côté de l'Union européenne pour justement contrer cette attaque, je dirais, des grands groupes. Je vais vous laisser la parole aux autres collègues parce que j'ai cru comprendre que j'avais déjà parlé beaucoup.
Bien. Merci beaucoup. Donc, François Rayrette, porte-parole de Génération Future. Je veux d'abord remercier le sénateur Joël Labbé de m'avoir invité. C'est avec plaisir que je vais dire quelques mots un peu à contre-courant, mais surtout sur la santé humaine que sur les effets environnementaux. Peut-être pour commencer, quelques mots très rapides sur Ecophyto que tu viens d'évoquer. Je ne vais pas dire grand-chose là-dessus puisque ça va être traité par ailleurs. Mais demain, il y a une réunion où le ministre doit présenter quelques éléments, quelques pistes pour la nouvelle mouture du plan Ecophyto que moi je suis depuis sa création. L'utilisation, il faut quand même réaliser que l'utilisation des néonicotinoïdes en enrobage de semences, ça revient à traiter a priori des plantes avec des insecticides depuis le semis. Et donc les plantes après sont imbibées de l'insecticide qui va se répandre dans leur sève. Et donc ça équivaut à faire des traitements d'assurance. C'est-à-dire on traite a priori contre un insecte alors même que l'insecte, on ne sait pas s'il va être présent sur la culture. C'est-à-dire que c'est le degré zéro de l'agronomie. C'est un truc qui est complètement incompatible avec les objectifs d'Ecophyto pour lequel, le minimum du minimum, c'est d'abord, même l'agriculture raisonnée, qui est pourtant pas une agriculture ambitieuse, ne va traiter que si, contre un ravageur, que si elle voit le ravageur. Donc là, avec les insecticides en enrobage de semences, les néonicotinoïdes, on n'est même pas au niveau de l'agriculture raisonnée. C'est vous dire la nullité de ce type de pratique au niveau agronomique. Si on parle d'agroécologie, c'est un terme qui est à la mode maintenant, rue de Varennes. Ça, c'est complètement contraire à l'idée même de l'agroécologie. C'est le niveau zéro de l'agronomie. On traite a priori sans même savoir s'il y aura un problème. Donc, je ferme la parenthèse. Comme on s'occupe beaucoup de l'agriculture chez Génération Future, on ne pouvait pas ne pas dire ça et dire combien on est loin des objectifs affirmés. Donc j'espère que cette demande qui est présentée, de résolution qui est présentée par le sénateur Joël Labbé, sera acceptée, parce que j'ai bien noté aussi, après avoir participé à la conférence environnementale, que le président de la République avait dit ce jour-là qu'il fallait qu'une grande attention soit portée à la situation sanitaire des pollinisateurs, les pesticides, les perturbateurs endocriniens. Donc je peux que me féliciter de cette déclaration du président, et j'espère qu'elle annonce un soutien à cette proposition de déclaration. En tout cas, je ne comprendrais pas qu'après de tels propos, la majorité présidentielle ne soutienne pas cette résolution. Alors, on a dit qu'un certain nombre d'usages de néonicotinoïdes avaient été interdits. Il y en a encore beaucoup qui restent autorisés. J'ai fait un tour sur le site IFI, on voit toute une série d'utilisations agricoles qui restent autorisées. Et on voit même des utilisations qui restent autorisées pour le jardinier amateur, hein, pour des produits à base de thiaclopride, il y en a deux qui sont homologués pour le jardinier amateur, des produits à base d'acétamipride, il y en a une petite dizaine utilisables sur les rosiers dans votre jardin, etc., vos fleurs d'ornement, des cultures d'ornement florales, etc., et toute une série, bien sûr, de cultures légumières, hein. Et pour les imidaclopride, c'est la même chose pour des cultures de céréales, par exemple, mais également des plantes d'intérieur, hein, sur lesquelles vous pouvez avoir des pollinisateurs qui viennent. Donc nous, on a réalisé, il y a déjà un an ou deux, un certain nombre d'analyses d'aliments. Donc nous, cette présence des néonicotinoïdes dans des insecticides déjà amateurs nous pose un problème, parce que ça veut dire qu'on a des gens qui ne sont pas formés, pas protégés, qui sont potentiellement, qui vont être exposés à ces produits. Et des agriculteurs qui vont continuer à être exposés. Mais on a trouvé dans les analyses qu'on a faites en 2013 qu'on avait également des résidus de néonicotinoïdes dans beaucoup d'aliments. On a testé des courgettes, on avait 45% des échantillons de courgettes testés qui contenaient de l'imidaclopride. 45, donc c'était 9 échantillons sur 20. On avait un quart des échantillons de tomates testés qui contenaient des néonicotinoïdes, soit de l'acétamipride, soit du thiaclopride, soit les deux. 80% des échantillons de thé qu'on a testés contenait aussi donc des néonicotinoïdes, donc acétamipride ou imidaclopride. Plus de 12% des fraises testées contenaient des néonicotinoïdes et plus de 16% des aubergines testées en contenaient également. Ça, c'est sur le marché français. Hein. C'est moi qui étais faire les courses, j'étais dans les supermarchés, j'ai fait les courses, c'est parti au labo. Donc, les consommateurs français aujourd'hui mangent des résidus de néonicotinoïdes. Donc, il y a déjà une exposition de la population. C'est d'ailleurs reconnu par l'EFSA. Hein. L'EFSA dit dans ses enquêtes, les poivrons, il y en a 5% au niveau communautaire qui contiennent des résidus d'imidaclopride. Les raisins de table, il y en a presque 15% qui contiennent des résidus d'imidaclopride. Donc, les consommateurs européens les mangent. Et les aubergines, il y en a 6%. Voilà. Donc là, c'est des études plus statistiquement significatives que les nôtres. Les gens en mangent et les gens respirent parce qu'ils peuvent en utiliser. Tu as bien fait de rappeler que ils sont aussi dans l'environnement plus général, et on commence aussi à avoir les premières études scientifiques qui nous montrent des effets. Alors il y a des études au Japon, qui ont été faites un certain nombre. Des études qui montrent que chez des patients, notamment, qui présentent des symptômes de type tremblement, mémoire à court terme réduite, etc., fatigue, palpitations, on a un certain nombre de patients dans les urines desquels on trouve des métabolites de composés organophosphorés. Donc les chercheurs posent la question du lien. C'est une des études d'ailleurs qui est liée à aux études de la Task Force sur sur la biodiversité. Donc on commence à trouver un certain nombre de pistes pour les effets sanitaires. Et aussi une étude qui a été prise en compte d'ailleurs par l'EFSA dans son opinion scientifique sur la toxicité du développement, neurodéveloppemental, toxicité de l'acétamipride et de l'imidaclopride. C'est une étude qui montre que l'acétamipride et l'imidaclopride, qui sont deux des principaux néonicotinoïdes, agissent sur les récepteurs nicotiniques et qui peuvent avoir un impact négatif sur le développement du cerveau. Et donc l'EFSA reprend cette étude en disant voilà, ces composés peuvent affecter, impacter le développement du système nerveux central chez les mammifères, comme la nicotine le fait. Et donc ça pose un problème, le problème du développement du cerveau chez le fœtus et donc chez le jeune enfant. À une époque où on sait que, d'après les statistiques américaines, mais à mon avis, si on faisait la même chose en Europe, on serait pas loin, on a quand même un nouveau-né sur 64 qui développe des symptômes de type du spectre autistique. On a quand même là un vrai problème. Le signal d'alarme est tiré depuis longtemps sur l'impact des insecticides, qui sont des neurotoxiques, mais là spécifiquement sur le fonctionnement et le mode d'action de ces néonicotinoïdes, on peut vraiment se poser la question sur le fait qu'ils jouent ou pas un rôle important dans cette épidémie d'autisme. Il y a quand même une épidémie au niveau mondial, on voit une courbe qui monte comme ça, de manière extrêmement forte, et donc pour que l'EFSA, je ne peux pas être soupçonné de sympathie excessive pour l'Agence d'évaluation des risques sanitaires européenne, ça au moins je suis à peu près sûr qu'on ne repensera jamais ça, et pourtant l'EFSA, dans sa grande prudence, reconnaît quand même que là, il y a un problème potentiel sur le développement du système nerveux central chez le mammifère, dont l'homme, donc dont les jeunes enfants. Donc on peut quand même se poser des questions. On touche là à la santé humaine. Et on dit, voilà, l'agence dit qu'elle a constaté que ces deux néonicotinoïdes peuvent affecter de façon défavorable le développement des neurones et des structures cérébrales associées à des fonctions telles que l'apprentissage et la mémoire. Fermez les guillemets, point final. Donc quand on a ce type d'effet qui est reconnu par une agence européenne. Quand on a d'autres effets, on parle aussi d'effets perturbateurs endocriniens potentiels sur la cotinidine, le thiaméthoxame, etc. Des problèmes de reproduction éventuellement chez l'acétamipride, la cotinidine, des effets soupçonnés cancérigènes chez le tiaclopride. On se dit que là, on a affaire à des substances qui sont non seulement dangereuses pour l'environnement, ça a été dit et ça le sera redit après moi, mais par des substances qui sont aussi potentiellement très problématiques pour l'être humain. Et en fait, on peut être surpris par ces déclarations, mais quand on connaît la toxicité à des très faibles doses, je terminerai là-dessus, finalement, ce qui aurait été surprenant, c'est qu'on ne trouve absolument aucun effet sur l'espèce humaine. Et finalement, la sonnette d'alarme qui était tirée, je dois le dire d'ailleurs, par les apiculteurs il y a déjà bien longtemps, aujourd'hui, il est plus que temps de continuer à la sonner et surtout de prendre des actes derrière. C'est pour ça que j'espère que tu seras entendu au niveau du gouvernement, pour que la France porte la demande d'un retrait de ces substances qui non seulement sont insupportables pour leurs effets sur l'environnement, mais aussi pour la santé publique. Merci.
Merci François.
Bonjour à tous. Donc, Amandine Le Breton de la Fondation Nicolas Hulot. Je suis en charge des questions d'agriculture et d'alimentation. Je vais directement rebondir sur ce que vient de dire François en disant que, au-delà des impacts environnementaux qui ont été décrits tout à l'heure, on a bien une présomption sorte des impacts des néonicotinoïdes sur la santé humaine, d'autant qu'on a depuis quand même de nombreuses années aussi des études montrant les impacts des autres pesticides sur la santé humaine. Donc on est dans un contexte malgré tout où, et notamment depuis 2008 et le lancement du plan Ecophyto sur lequel je reviendrai, on a de plus en plus d'informations et les éléments s'accumulent pour nous dire qu'on a un danger de plus en plus évident sur notre santé. Et c'est important d'avoir ça en tête, selon nous, pour réussir à parler de ces sujets à un très grand public. On a besoin de savoir parler de ces sujets néonicotinoïdes. Vous avez introduit en disant néonicotinoïdes est un nom barbare, j'ai commencé par l'expliquer. Mais plus globalement, on a des difficultés aujourd'hui à parler de ce qu'est notre agriculture, de quels sont ses impacts. L'alimentation est quelque chose de partagé, est une notion de plaisir en France, c'est une bonne chose. Mais malgré tout, il faut savoir réussir aujourd'hui à parler des impacts, voire des dangers, voire des pratiques à réduire ou complètement à faire disparaître. Et c'est un fort enjeu qu'il faut qu'on arrive collectivement à faire dépasser. Et d'ailleurs, M. Labelle a rappelé la place des médias pour parler aussi de ces sujets. Et donc parler de la question des néonicotinoïdes, c'est parler d'un sujet de société. C'est parler de la place de l'alimentation dans le quotidien de chacun, via son environnement, puisqu'on est directement impacté, on vient de le voir, mais aussi sur d'autres points. On parlait de la disparition, ou en tout cas de l'affaiblissement dramatique des populations d'abeilles. Quelle sera notre capacité à assurer notre sécurité alimentaire dans plusieurs dizaines d'années ? Donc cette question, c'est une question de société, mais dont on a du mal, clairement, à parler aujourd'hui à un très grand public. Quand, depuis des dizaines d'années maintenant, via la politique agricole commune, on finance une certaine agriculture qui promeut ces types de produits dangereux, à hauteur, par exemple, pour 2014, de 9 milliards d'euros par an dédiés à l'agriculture en France, c'est une question de société. Alors, à quoi on utilise aujourd'hui notre argent public ? Donc le premier message qu'on souhaitait faire passer aujourd'hui, c'est que au-delà du nom un peu barbare de pesticides néonicotinoïdes, on parle bien des systèmes agricoles et alimentaires qui doivent sous-tendre nos sociétés. On parle bien d'un sujet de société qu'il faut réussir à partager avec le plus grand nombre. On a parlé tout à l'heure rapidement du plan Ecophyto, donc un rapide résumé de ce qu'est ce plan qui a été lancé à l'issue du Grenelle de l'environnement en 2008. L'objectif, c'était de réduire de 50% l'usage des pesticides en 10 ans, donc d'ici 2018. Alors le constat est un constat d'échec, on peut le dire aussi clairement que ça, puisque malgré 41 millions d'euros par an dédiés à ce plan par l'État, sans compter les cofinancements des agences de l'eau par exemple, on a aujourd'hui une stagnation d'utilisation des pesticides en France. Voire même, pour certaines années, comme 2013 par exemple, une augmentation de 9,2% de l'usage des pesticides. Donc on peut aujourd'hui parler d'un échec de ce plan et de la nécessité assez évidente de le revoir et de proposer une deuxième version qui soit plus efficace. Et c'est encore une fois aussi une question d'argent public. Alors, les dysfonctionnements du plan passé, il y en a un certain nombre pour arriver à ce constat. Parmi les dysfonctionnements, notre analyse est qu'on n'a pas su, dans un premier temps, transférer vraiment les bonnes pratiques, puisqu'aujourd'hui, on sait qu'il y a des systèmes agricoles, via notamment le réseau des fermes des filles, qui montrent qu'avec, j'allais dire simplement, alors c'est jamais simple, mais on peut, par certaines pratiques, réduire déjà l'utilisation des pesticides de 10, 15, 20%. Voire 25, et que on a réussi ces réductions-là, mais on n'a pas réussi à les transférer de manière positive pour montrer que à la fois on réussissait à réduire, mais en plus les exploitations qui réussissaient à le faire maintenaient leur marge économique et maintenaient leurs revenus. Donc ça, c'est un message sorti de ce plan Ecophyto, et qu'on n'a pas réussi, c'est probablement collectif, on n'a pas réussi à diffuser à la majorité des exploitations agricoles. Ceci étant dit, on parle d'un pourcentage là de 20-25% de réduction des pesticides, mais 50% c'est un cap très ambitieux. C'est un cap très ambitieux qu'il faut selon nous maintenir, puisqu'il est essentiel en termes de vision si on veut vraiment mettre en place un projet agroécologique, mais qui dit cap de réduction des 50% dit une autre vision des systèmes agricoles et dit un changement vraiment de mise en place des systèmes. Donc quand on dit ça, c'est pas seulement une somme de pratiques. Dans le rapport de Dominique Potier, on parle d'agroéquipement, qui est quelque chose de nécessaire. Donc on parle de caméras, de GPS, d'agriculture de précision pour éviter les pertes de pesticides. Donc c'est une bonne chose, mais pour autant, ce ne sera pas suffisant pour atteindre les 50%. Pour atteindre les 50%, on doit utiliser des leviers agronomiques beaucoup plus importants, qui sont l'allongement des rotations, l'utilisation de ce qu'on appelle les infrastructures agroécologiques, donc les haies, les talus, les bois, voilà, remettre ces zones d'hébergement des prédateurs aux ravageurs des cultures pour retrouver une dynamique agroécologique. Donc c'est un bouleversement en profondeur des systèmes agricoles qui appelle à une convergence des politiques publiques vers cet objectif de plan éco-phyto. C'est-à-dire que penser que la résolution qui est portée par Joël Labbé suffira à changer l'agriculture n'est pas une bonne chose. Cette résolution est un marqueur essentiel selon nous pour le nouveau plan éco-phyto qui doit être annoncé, en tout cas dans les grandes pistes, demain. Mais il doit être accompagné d'un certain nombre d'éléments et des moyens. Et on parlait de la politique agricole commune. C'est vrai que la prochaine est à 2020, et pour autant, il faut déjà se préparer à se dire que cette nouvelle politique devra converger vers cet objectif de réduction des 50%. Alors, quelques mesures qui, selon nous, devraient faire partie d'un plan plus global de réduction des pesticides et accompagner donc les mots de François Hollande, comme l'a rappelé François Vaigrette, qui souhaite aller plus loin, en tout cas sur ces mots de la conférence environnementale sur les pesticides néonicotinoïdes. Dans les mesures, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, mettre en place une campagne d'information très grand public sur l'impact des pesticides et sur ses dangers serait une bonne chose, justement, pour ouvrir le débat sur cette question des pesticides auprès de la population. Un second point serait la reconnaissance des maladies professionnelles, puisque c'est une question de santé, mais c'est aussi une question de santé pour les opérateurs, pour les agriculteurs, qui sont les premiers, forcément, utilisateurs des pesticides et qui sont aussi les premiers touchés. Et on a aujourd'hui un défaut de reconnaissance de certaines maladies professionnelles dans le tableau des maladies professionnelles. Et puis, il y a des mesures qui sont essentielles, qui ne seront pas dans le prochain plan, mais qui, selon nous, seraient des marqueurs très intéressants. La première, c'est l'implication du ministère de l'écologie, clairement, dans le plan éco-phyto. Aujourd'hui, le plan éco-phyto est piloté par le ministère de l'Agriculture, ce qui est une chose, mais ce qui conforte l'image que l'agriculture est une question d'agriculteur. C'est une question d'agriculteur, mais ce n'est pas qu'une question d'agriculteur. Donc un copilotage à minima par le ministère de l'écologie, voire pourquoi pas le ministère de la Santé, puisqu'on parlait de prévention et d'anticipation, serait un marqueur très important. Le deuxième point, qui est une marotte qui revient régulièrement, c'est la séparation de la vente et du conseil. On a introduit on va introduire, ou on espère, des certificats d'économie de produits phytosanitaires. Le pas suivant, ce serait de vraiment séparer la vente et le conseil, puisqu'aujourd'hui, ce sont les distributeurs de produits phytosanitaires qui continuent à faire le conseil directement aux agriculteurs. Et enfin, le dernier point qui fait écho à mon introduction, c'est d'intégrer les citoyens dans cette dynamique positive de réduction des pesticides. Et pour ça, il faut, selon nous, susciter une demande en produits de qualité, donc bio ou labellisés, locaux, qui puisse créer une boucle vertueuse. L'idée n'est pas de dire que ça suffira pour changer toute l'agriculture, mais pour redonner une dimension et une vision territoriale aussi à cette réduction des pesticides. Les agriculteurs ne sont pas tout seuls face à leurs problématiques de réduction des pesticides. Ils doivent rentrer dans des dynamiques territoriales. Et selon nous, on peut susciter cette demande en produits locaux et de qualité via la restauration collective, par notamment une prime nationale qui serait dédiée justement aux restaurants qui puissent introduire ces produits locaux, qui sont souvent aidés par certaines collectivités, mais parfois à qui il manque certains financements pour investir dans, par exemple, ce qu'on appelle une légumerie qui permet de travailler des produits bruts, ou dans l'accompagnement par les associations locales, ou dans les formations pour les cuisiniers. Mais en tout cas, que l'État s'engage aussi à susciter une demande en produits locaux de qualité bio dans les restaurants collectifs, ce qui serait un signal pour intégrer le citoyen à cette dynamique globale de réduction des pesticides.
Bonjour, je suis Anaïs Fourest de Greenpeace, je suis en charge des questions agricoles chez Greenpeace. Il y a déjà évidemment énormément de choses qui ont été dites, donc je vais essayer de faire très court. Ce qui est clair, c'est que l'objet donc de cette proposition de résolution, c'est de demander à la France d'agir au niveau européen pour interdire complètement les néonicotinoïdes. Et pourquoi? Parce qu'ils sont actuellement omniprésents dans notre environnement, à nous tous, et notamment parce que aujourd'hui ils font partie des insecticides qui sont les plus utilisés dans le monde entier. Et donc il y a énormément nos écosystèmes, mais énormément de composantes de nos écosystèmes, telles que les pollinisateurs qui sont exposés. Également les agriculteurs, ça on en a déjà parlé. Mais ce qui est important de noter, c'est que les néonicotinoïdes, depuis qu'ils sont utilisés, n'ont pas permis d'augmenter les rendements de manière significative, et en particulier dans les grandes cultures. Par contre, les pollinisateurs, eux, sont en déclin, et le service de pollinisation qu'ils rendent, lui, il permet d'augmenter les rendements et la qualité de la production agricole. Donc c'est réellement important de les préserver. Et donc de fait, les néonicotinoïdes sont absolument incompatibles avec une agriculture écologique qui, à moyen et long terme, est la seule à être viable. Donc pourquoi ils n'ont pas été interdits plus tôt alors que visiblement toutes les preuves les accablent? Tout simplement parce qu'il y a des intérêts économiques qui sont énormes derrière. Évidemment, ils sont utilisés comme une espèce d'assurance par les agriculteurs qui sont pieds et poings liés, si je puis dire, avec ces produits, mais surtout parce qu'ils rapportent évidemment énormément à leurs fabricants. Par exemple, en 2009, les trois principaux néonicotinoïdes, que sont la clothianidine, l'imidacloprid et le thiamethoxam, qui concernent 85% du marché des néonicotinoïdes, c'était 2,3 milliards de dollars. Donc forcément, il y a un intérêt direct à ce qu'il soit, utilisé. Au niveau européen, pourtant, il y a eu suffisamment de preuves qui ont été réunies pour pouvoir arriver à une restriction de leur usage en 2013. Cette restriction, elle est fragile. Elle a été attaquée par les fabricants, comme le rappelait l'UNAF en départ, à savoir Syngenta et Bayer. Pour autant, elle est absolument nécessaire, et donc du coup il y a de nombreuses organisations qui se sont porties en soutien, dont Greenpeace, dont le Pesticide Action Network au niveau européen, dont fait partie Génération Future, dont les apiculteurs européens, dont l'UNAF, pour vraiment faire en sorte qu'elle soit maintenue et vraiment défendre l'intérêt des agriculteurs et des consommateurs aux dépens de l'intérêt des fabricants de pesticides. De plus, elle n'est pas suffisante, cette restriction d'usage. Elle porte sur trois molécules, sur certains usages, dans certaines conditions, sur certaines plantes. Donc ça fait beaucoup de certains, ça fait beaucoup de conditions. Et ce qui doit ressortir aujourd'hui de notre intervention à tous, c'est clairement que c'est une interdiction complète qui est nécessaire pour que ces molécules, elles, disparaissent de l'environnement, et donc que plus personne n'y soit exposé. Pour vraiment redonner à l'agriculture la possibilité de fonctionner avec toutes les synergies qui existent dans la nature. Donc en parallèle de l'interdiction qui est absolument nécessaire et donc de l'interdiction complète de ces néonicotinoïdes, il faut aussi, et c'est une demande que nous sommes nombreux à porter, donc Greenpeace, que le gouvernement soutienne la mise en place et le développement de solutions alternatives aux pesticides. Il y a des solutions qui existent déjà, notamment le biocontrôle, et je pense que la Confédération paysanne en parlera mieux que moi. Il y a des solutions qui sont à développer, des solutions qui sont à améliorer, mais il faut réellement qu'elles le soient, et pour ça il faut qu'il y ait des moyens qui soient donnés, et il faut qu'elles soient accessibles, que les agriculteurs puissent tout simplement les acheter à la place des pesticides. Donc c'était aussi un élément important à mettre en balance de cette interdiction qui est le premier pas nécessaire, une interdiction complète.
Jean, pour la Confédération.
Jean Sabin, la commission pesticides de la Confédération paysanne. La Confédération paysanne s'intitule « Syndicat pour une agriculture paysanne et la défense de ses travailleurs ». Notre projet d'agriculture paysanne intègre les dimensions sociales, économiques et agronomiques dans le processus de production agricole. C'est une alternative réaliste et durable à une agriculture industrielle qui élimine trop de paysans et de structures diversifiées. L'agriculture paysanne répond à une attente sociétale de plus en plus forte en termes de santé, d'environnement, de qualité de l'alimentation, de souveraineté alimentaire. La Confédération paysanne demande le retrait des néonicotinoïdes depuis plusieurs années pour divers motifs. Et c'est pour cela que nous avons été très heureux de l'initiative de Joël Labbé et que nous la soutenons pleinement. En tant que syndicat généraliste, le syndicat est concerné d'abord par les adhérents qui sont des apiculteurs, qui subissent de plein fouet les effets, dont le cheptel subit de plein fouet les effets des néonicotinoïdes. Et ça fait plus de 20 ans qu'ils dénoncent ces effets. Et si au lieu d'avoir des petites abeilles, ils élevaient des moutons, on n'en parlerait plus. Les décisions auraient été prises. Et nous sommes aussi concernés par la santé des producteurs qui les utilisent, que ce soit en grande culture ou en maraîchage, arboriculture. Dans ces deux domaines, les preuves d'impact s'accumulent de l'extrême nocivité de ces molécules. Il y a notamment l'expertise internationale qui a été rendue ces derniers mois, qui fait le point sur tout ce qui est connu. Et on constate que la santé des écosystèmes terrestres et aquatiques est particulièrement atteinte par les effets de l'accumulation, de la rémanence. Ces produits peuvent rester dans le sol pendant plusieurs années, jusqu'à 5-6 ans, selon le sol, selon les produits eux-mêmes, et aussi de l'extrême toxicité. La biodiversité, pour l'agriculture, ce n'est pas simplement une question d'éthique, une question de philosophie, c'est une question économique. Pour la vie en général, ça a une grande valeur économique. Beaucoup de nos activités dépendent de la biodiversité, mais surtout en agriculture. Or, les écosystèmes sont les éléments de base de l'agroécologie. C'est leur action qui permet, entre autres, le recyclage de la matière organique, le cycle des aliments nutritifs, la lutte biologique, grâce à l'action de beaucoup d'organismes vivants qui sont impactés, tels, pour n'en citer que deux les plus connus, le ver de terre et les coccinelles, qui permettent de travailler le sol, de faire que le sol soit vivant, que les éléments nutritifs puissent accéder facilement à la plante, que la matière organique se décompose et soit récupérable, et en même temps de protéger, d'être ce qu'on appelle les auxiliaires de culture, les prédateurs des parasites. Et il ne peut pas y avoir de projet agroécologique crédible, ministériel ou paysan, qui ne prennent les mesures minimales de préservation des faunes naturelles et de leurs équilibres. Cette préservation du milieu vivant est une des conditions nécessaires au développement de l'agroécologie, mais aussi de l'agriculture bio ou de l'agriculture paysanne. L'usage des pesticides, et en particulier les néonicotinoïdes, est la cause de la destruction de la vie dans ces écosystèmes. Et cette destruction a pour conséquence une augmentation de la consommation de pesticides. Comme le service rendu par les auxiliaires dans la protection des plantes ou dans la dégradation de la matière organique ne sont pas rendus, on fait appel à la chimie. Donc c'est un cercle vicieux qui s'alimente lui-même et il faut y mettre fin. La consommation de pesticides continue à augmenter. Ça a été dit, avec Ecophyto, on a continué à augmenter. Et pourtant, les rendements stagnent et diminuent dans certains cas. Le mode de production intensif a atteint sa limite. Et on le maintient avec toujours plus de produits chimiques. Et cela avec des nuisances sanitaires, environnementales, et sociale toujours plus forte. Pourtant, l'utilisation de ces molécules n'a pas permis l'augmentation des rendements des agriculteurs dans les grandes cultures. Il y a un certain nombre d'études qui le montrent. En France, on a constaté que lorsqu'on a supprimé l'utilisation du gaucho sur le maïs et le tournesol, les rendements n'ont pas été affectés. Les maïsiculteurs et leur organisation se sont plaints qu'il y avait des centaines de milliers de tonnes perdues. Mais quand on regarde les statistiques agrestes du ministère de l'Agriculture et le rendement à l'hectare, il n'y a pas eu de variation. En Grande-Bretagne, c'est le blé et le colza sur 20 ans. Pas d'impact notable entre et pas de différence entre les cultures traitées aux néonicotinoïdes ou non traitées. Aux États-Unis, 19 études montrent que les néonicotinoïdes n'ont pas permis une amélioration significative des rendements. En Italie, ces produits ont été interdits totalement pour les traitements de semences pendant plus de 3 ans et le rendement n'a pas diminué non plus. Par contre, les mortalités d'abeilles de ruches qui étaient passées à 37% sont revenues à 15%. C'est l'effet des néonicotinoïdes. Et là, je me permets d'ajouter, de dire que, bien sûr, les abeilles ne subissent pas que ces insecticides. Il y a les autres causes. Mais les autres causes, dans ce cas-là, elles étaient limitées à 15%. 15%, il y a une apiculture de mortalité, une apiculture est possible. Avant, nous avions 5%. Alors, mais tout ceci démontre que l'interdiction des néonicotinoïdes ne sera pas la catastrophe, les calamités annoncées par certains. Et qu'en ce qui concerne les grandes cultures, on peut les supprimer sans danger.
Vas-y, prends la suite. Il y a une seconde parole de la Confédération paysanne concernant l'arboriculture.
Bonjour, Emmanuel Haz, Confédération paysanne. Je suis producteur de fruits en conventionnel dans le sud-ouest. Je le précise parce que nos adversaires dans cette affaire de néonicotinoïdes, que sont les fabricants et leur relais, ne manqueront pas de présenter notre initiative commune comme celle du monde environnementaliste, alors que ça n'est pas le cas. Je voulais apporter juste un très bref éclairage sur le cas particulier des fruits et légumes dans la problématique des néonicotinoïdes, parce qu'on a beaucoup évoqué le cas des grandes cultures pour lesquelles beaucoup d'études convergent à démontrer que finalement le fait de s'en passer des nicotinoïdes et d'autres pesticides ne cause pas d'incidence en termes de rentabilité qui soit rédhibitoire à leur interdiction. C'est un peu plus compliqué en fruits et légumes. Pourquoi, en quoi est-ce que c'est particulier les fruits et légumes? D'une part, la question de l'exposition humaine y est particulièrement aiguë du fait des multiples usages des néonicotinoïdes sur ces productions, d'une part. D'autre part, parce qu'il y a beaucoup de main-d'œuvre hein, pour ces productions et une proximité plus grande des travailleurs vis-à-vis du végétal que dans le cas des grandes cultures. C'est aussi pour ces productions, finalement, que le grand public est le plus inquiet de la problématique des résidus, puisque les produits frais se retrouvent dans le commerce quelques jours, quelques semaines après avoir quitté le champ. Il y a une autre dimension qui fait la particularité de ces productions dans cette problématique, c'est leur situation économique extrêmement délicate, consécutive à leur mise en concurrence distordue hein, et déloyale avec notamment les productions espagnoles et allemandes pour lesquelles, de différentes manières, les coûts de production sont beaucoup plus bas, mais essentiellement du fait que la main-d'œuvre y est rémunérée à peu près moitié moins qu'en France par une fraude massive en Espagne. Et par en fait l'exclusion en Allemagne du champ de l'agriculture, de la création d'un SMIC là qui a eu lieu il y a moins d'un an. Donc je voulais juste apporter cet éclairage hein, concernant la résistance du monde agricole à la réduction et à la sortie des pesticides. Dans le cas des fruits et légumes, il faut comprendre que pour beaucoup, il faut d'abord savoir que les alternatives sont beaucoup plus coûteuses. Elles consistent en plus de main-d'œuvre ou des protections physiques, type filet anti-insectes par exemple, ou bien des techniques de biocontrôle dont la propriété intellectuelle de plus en plus est accaparée par les firmes fabricantes de pesticides. Ça a été depuis un an ou un an et demi, il y a un phénomène d'accaparement et de rachat massif des outils de biocontrôle par les grandes firmes multinationales fabricantes de pesticides. Il en résulte, en fait, un différentiel de coût entre l'approche chimique et l'approche par des alternatives qui est souvent rédhibitoire dans le contexte hyper concurrentiel
que j'évoquais tout à l'heure. Donc dans le vécu de beaucoup de producteurs qui finalement cultivent un déni de la dangerosité de ces pratiques, il y a un vécu de ces outils pesticides et des néonicotinoïdes en particulier comme un outil, comme une assurance au rendement et finalement une béquille économique qui compense les distorsions du droit social entre la France et les autres pays, les pays avec lesquels nos productions sont en concurrence. Donc, on parlait de la société, de la place de l'alimentation tout à l'heure, et de la sensibilisation du public. Bien sûr qu'il s'agit de sensibiliser le public à la dangerosité des pesticides. Je crois que c'est quelque chose qui avance depuis quelques années. Il faudrait aussi rappeler que la valeur de l'alimentation, et singulièrement des fruits et légumes, a été divisée par 2,5 en 40 ans, relativement au SMIC et au salaire médian. Et elle a notamment été divisée par 2,5 par la massification des pratiques pesticides. Il faudrait qu'on plus régulièrement, vous évoquiez les médias aussi tout à l'heure, ils ont un autre rôle, c'est de cesser de rabâcher à longueur d'été que les fruits et légumes sont trop chers, poussant en cela finalement et exacerbant la concurrence avec les systèmes productivistes qui se situent sur le territoire national ou à l'extérieur. Un dernier point, les fruits et légumes sont pratiquement exclus des soutiens de la PAC, ou ils le sont de façon symbolique. Même des dispositifs de l'organisation commune de marché, qui pour certains d'entre eux proposent un cofinancement de certaines techniques alternatives, mais finalement près de deux tiers des producteurs en sont exclus. Donc, nous, à la Confédération Paysanne, on soutient bien évidemment toute démarche qui tendra à interdire les néonicotinoïdes et progressivement le plus de pesticides possible. Simplement, il faut accompagner ça. Il en va de l'avenir concret, de la persistance de nos productions sur le territoire national, mais aussi de l'acceptabilité de ces démarches d'interdiction et du fait qu'elle ne soit pas contournée par des démarches frauduleuses, qui existent beaucoup aussi. Donc, nous demandons à ce qu'il soit pris en considération cette question de coût des alternatives et en fait la cause de l'usage des pesticides dans un contexte de concurrence exacerbée.
Voilà. C'est pour cette raison qu'il serait absolument logique que l'argent public qui est utilisé par la PAC servent justement à soutenir la démarche d'une production agricole qui consomme moins et pas du tout de pesticides. Dans le cadre de l'verdissement de la PAC, ce serait une bonne mesure à demander pour obtenir et pour aller plus vite dans ce sens.
Bien, merci beaucoup, beaucoup pour la richesse de vos interventions qui apportent un argumentaire et vécu par des professionnels. Et aussi l'expertise scientifique et donc les associations, le monde associatif français, c'est une richesse extraordinaire. Nous, pour faire avancer les choses, on en a besoin, la société en a besoin, et je suis très heureux ici de pouvoir d'avoir pu leur donner la parole. Je conclue, on revient à cette résolution. Alors, Amandine Le Breton l'a dit tout à l'heure, c'est pas parce que cette résolution serait votée que tout va aboutir. Par contre, c'est un signe fort, à savoir là, il est avéré que ce sont des produits hautement toxiques, dangereux. Alors, parmi les choses que je dirais au ministre, je ne sais pas encore quel ministre sera là, en tout cas, ce n'est qu'une résolution, ce n'est pas la révolution. Je le dirai à mes collègues. Par contre, c'est un signe extrêmement fort. Alors, la majorité, là-dedans, n'est pas gagnée. Elle n'est pas gagnée du tout. Après tout ce que vous avez pu entendre. Moi, je connais pas bien comment ça fonctionne, tous les trucs politiques dans les couloirs, et à la limite, ça m'intéresse pas. Alors, il faut savoir, il y a des stratégies, tout ça. Sur un sujet comme celui-là, dans ma manière de pratiquer, et on me connaît ici, maintenant, là, j'ai m'arrive de passer des nuits quasi blanches en me disant comment on va pouvoir y arriver. Alors là, je vous parlais stratégie, ma stratégie personnelle tout à l'heure. C'est une chose, une lettre ouverte à mes collègues sénatrices et sénateurs. je vais vous dire simplement la fin, et puis l'annonce d'un vote à scrutin public. Donc toute la première partie, mais vous l'aurez, c'est enfin le rappel de les motivations de la résolution et puis le rappel de tous ces sujets-là, avec un point particulier sur la task force qui est arrivée après le dépôt de la résolution. Et donc je conclue par ceci, ces quelques mots pour vous dire toute la responsabilité que nous prendrons en adoptant ou en n'adoptant pas cette résolution. Je vous invite, mes chers collègues, à en lire l'argumentaire avec la plus grande attention, à vous intéresser aux conclusions de la task force. Je vous invite à en discuter entre vous et à en discuter aussi avec les populations que vous côtoyez et que vous représentez. La conférence de presse que j'ai organisée aujourd'hui a justement pour but d'informer la population le plus largement possible. La méthode que j'ai utilisée pour m'adresser à vous par le biais d'une lettre ouverte n'est pas habituelle. Elle pourrait même être qualifiée de cavalière, mais je crois que la population doit être associée à nos préoccupations. Il convient d'en retrouver la conscience. J'ai aussi choisi par cette lettre ouverte de vous informer que je demanderai un vote à scrutin public afin que chacune et chacun d'entre vous puisse exprimer sa voix par un vote en son âme et conscience, cette si magnifique expression. Je suis ainsi convaincu qu'une très large majorité d'entre vous contribuera à l'adoption de cette résolution, démontrant que notre Assemblée sait prendre ses responsabilités en ce début d'année 2015 qui verra l'accueil par notre pays de la grande conférence environnementale. Soyez assurés, Madame la Sénatrice, Monsieur le Sénateur, de mon plus profond respect, parce que je tiens à leur affirmer mon respect, et je reste là, vraiment confiant sur le fait de trouver une majorité dans tout cela. Donc débat mercredi soir. Maintenant, merci d'être là. Et puis maintenant, questions à la table ou à moi-même, enfin aux gens qui sont à la table. Si vous voulez bien, en vous présentant au préalable.
Bonjour, Laurence Madoui de la Gazette des Communes. Je voudrais savoir si l'étude à laquelle vous avez fait référence est attachée à l'impact de ces néonicotinoïdes sur la qualité de l'eau brute, l'eau que l'on va ensuite pomper pour la potabiliser et la servir à tous les usagers. Est-ce que, comme sur les fraises, les aubergines, on trouve des traces de néonicotinoïdes dans l'eau du robinet? Et sait-on quel est le coût payé par l'usager de l'eau potable pour traiter ces toxiques?
Alors, on n'a pas des éléments de réponse tout à fait complets, mais ce qu'on sait, c'est que dans un pays comme les Pays-Bas, où il y a donc beaucoup de cultures sous serre, on utilise beaucoup de néonicotinoïdes sur les légumes, hein, voilà. Les néonicotinoïdes sont parmi les principaux polluants des eaux. Ça, c'est vraiment bien repéré. En France, on a des cultures plus diversifiées, donc voilà. En Hollande, il y a une proportion de légumes sous serre très importante. Après, sur le coût de la dépollution, on a des chiffres en France qui nous disent par le CGEDD, je crois, que le coût de la dépollution des pesticides en général dans les masses d'eau, ça doit tourner autour du milliard. Alors c'est un truc qui est purement théorique, hein, parce qu'il faut encore que ce soit possible techniquement, mais si c'était possible techniquement, si ça faisait sens de le faire, ça retournerait autour d'un milliard, un milliard et demi. C'est-à-dire que c'est des factures absolument colossales, mais ça viendrait à l'idée de personne, d'ailleurs, d'engager un chantier pareil, parce que ça n'aurait pas de sens si on ne mettait pas parallèlement en œuvre des mesures de prévention. Parce que, vous savez, dans chaque commune où il y a un problème de pollution de l'eau, on est obligé de mettre une unité de filtration sur charbon actif, c'est une facture de 2 millions d'euros qui est payée par le consommateur. On est encore sur les externalités, donc là c'est le collectif qui paye des impacts négatifs liés à des activités privées. Mais vous voyez, ça donne un ordre de grandeur des coûts colossaux qu'impliquerait une dépollution des eaux. Voilà, bien sûr, à laquelle on préfère, nous, plutôt des mesures de prévention.
Il y a des données qui estiment que le coût de la dépollution apporté par l'agriculture autour d'un captage se situe entre 300 et 2800 euros à l'hectare, selon le type de culture.
Selon quelle étude ou quelle source?
C'est un service du ministère de l'Environnement. Je me rappelle plus le nom. Hein.
Ça doit être le même rapport.
Oui, c'est le rapport. Oui, c'est le même rapport.
Donc là, c'est ce qu'on appelle les externalités négatives, qui sont payées soit par les contribuables, soit par les consommateurs, et qui ne sont pas reconnues pour l'agriculture biologique, par exemple, qui, elle, n'occasionne pas ces conséquences qui coûtent. Et c'est là où il y a véritablement à faire la part des choses entre le véritable coût de l'agriculture productiviste.
Un sujet que vous n'avez pas évoqué, c'est l'enjeu alimentaire. Donc, et est-ce que finalement, si on veut nourrir le monde, est-ce qu'on peut se passer de produits chimiques, quoi? Voilà.
Alors voilà une excellente question. Parce que les arguments, alors très souvent à l'Assemblée, dans l'hémicycle, il y a ça, on va dire très schématiquement, ceux qui soutiennent le productivisme et qui en sont convaincus, ils ont droit. Ils vont dire il faut bien nourrir la planète, 9 milliards 6 en 2050. Alors on est dans l'inverse complet, on est en train d'appauvrir les pays du Sud. Des exemples. Le soja qui nous vient d'Amérique du Sud. Je parle simplement de la Bretagne que je connais particulièrement bien. La Bretagne, 1 650 000 hectares de surface agricole utile. Eh bien, pour faire pousser le soja en Amérique du Sud, c'est 1 million d'hectares à 80% transgéniques. Qui est fixe. Les données sont vérifiables. Là-bas, au détriment des petits paysans brésiliens, au détriment aussi de la forêt primaire, d'une part. Alors, ça, c'est l'amont. Ensuite, l'aval, parce que ça nous fait produire des produits bas de gamme qui vont vers l'exportation. Et comme il y a la question de la super compétitivité, on se retrouve en compétitivité avec les produits brésiliens ou d'Asie du Sud-Est. Et on a du mal, on est en train de chercher des marchés. Et là, par exemple, l'Europe a demandé à ce que les pays africains baissent leurs barrières douanières pour faire plus de perméabilité. Et la perméabilité, elle va essentiellement dans un sens, et nos produits vont concurrencer leur petite agriculture, leur petit élevage. Le véritable développement, c'est de soutenir un développement, si je parle des pays africains, pour les Africains et avec les Africains, sans transposer le modèle occidental qui n'est pas du tout un modèle. Voilà la réponse très clair que je peux vous donner par rapport à ça. Alors, Olivier de Schutter, que tout le monde connaît, suite à études, démontre qu'en 10 ans, sur des méthodes véritablement agroécologiques, les pays d'Afrique doublent leur production alimentaire. Donc là, actuellement, on est à côté de la plaque, on continue d'appauvrir les pays du Sud en allant dire après qu'il va bien falloir nourrir la planète. Ça ne peut pas tenir formellement comme logique.
Juste un complément aussi, dans cette équation, il y a la question du gaspillage. Aujourd'hui, on sait que près d'un tiers de ce qui est produit sur la planète en termes d'agriculture est jeté. Donc jeté soit au niveau de la consommation, ça c'est plutôt dans les pays du Nord, donc au moment où voilà l'acte d'achat, donc plutôt à l'aval, soit jeté en amont, et ça c'est plutôt dans les pays du Sud, pour des questions de stockage, d'infrastructures, de récolte, une mauvaise optimisation, on va dire, de ces pratiques. Mais quand on pense à cette énergie qui a été utilisée, donc quand on parle d'énergie, on parle des intrants, de l'eau, des pesticides, du pétrole qui a été utilisé globalement, on se rend compte qu'il faut intégrer ça dans l'équation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas raisonner comme ça en disant il faut augmenter, enfin il va falloir produire plus. On a besoin d'un équilibre et la réduction drastique de ce gaspillage est essentielle. Et ensuite, en effet, différencier les problématiques. Il y a une problématique au Sud où on a des marges de manœuvre considérables d'augmentation des rendements avec des pratiques agroécologiques. Et au Nord, où on stagne déjà dans les rendements et où on peut garder des rendements tout à fait intéressants et d'ailleurs continuer aussi la recherche pour les faire progresser avec des pratiques plus durables. Donc on est dans une équation un peu plus complexe que juste on sera plus nombreux, donc on augmente la production.
Alors un autre aspect sur les pays du Sud, la question de l'accaparement des terres, dont on parle trop peu, là encore des terres pour des productions vivrières,
accaparée par des sociétés ou par des pays, et très souvent pour faire de la monoculture très arrosée de produits chimiques, d'une part, et pour un certain nombre de milliers ou millions d'hectares pour faire rouler nos voitures parce que c'est pour fabriquer de l'agrocarburant. Donc quand on parle nourrir les populations, on a affaire déjà à balayer devant notre porte les pays occidentaux.
Je vais rajouter deux mots. Savoir quel modèle on veut pour l'agriculture dans le monde. Nous, en Europe, en France notamment, on a divisé de manière considérable le nombre d'agriculteurs depuis 50 ans. Deux questions qui se posent. Un, est-ce qu'on a comme mission en Europe de nourrir le monde? Enfin, quand on voit le truc, est-ce que ça fait sens? Moi, je suis partie de ceux qui pensent qu'on peut avoir des échanges, mais qu'on n'a pas une mission, quand on voit la France sur une carte, de nourrir le monde. Et que la deuxième question, c'est quel système agricole il est possible de laisser se développer ou d'encourager se développer dans les pays les plus pauvres. Alors, si on veut faire un copier-coller du système français, du système européen, le résultat est clair. On va avoir une agriculture qui va dépendre donc de la chimie, de la motorisation, le machinisme agricole très poussé. Donc c'est une agriculture qui va dépendre de capitaux. Les petits agriculteurs des pays les plus pauvres n'ont pas ces capitaux. Donc on va balayer de la carte 80 ou 90% au moins de ces agriculteurs-là, mettre en place des structures capitalistiques avec des sociétés à capitaux étrangers qui vont complètement contrôler la production d'alimentation dans ces pays-là. Et jeter les gens qui n'auront plus d'emploi dans l'agriculture, les petits propriétaires, et les jeter dans les bidonvilles des capitales tiers-monde. Voilà. Si c'est ça qu'on veut, effectivement, ça marche déjà dans certains coins, mais c'est une catastrophe sociale, c'est une catastrophe environnementale. Si on veut au contraire donner le moyen à ces paysans-là de produire en passant par l'agroécologie, en France on a intégré, et en Europe, l'idée que, par exemple, passer au bio, ça induit une perte de rendement de production. Mais là-bas, une bonne agronomie, même en bio ou quasiment bio, comparée à une agronomie un peu pifométrique, ça augmente les rendements. Et c'est ce qu'Olivier Lechuter dit, c'est-à-dire qu'on peut augmenter la productivité tout en gardant des paysans. Et c'est là l'enjeu, c'est d'arriver à faire augmenter la production tout en maintenant des paysans sur les terres. Parce que si ces paysans-là, qui sont la majorité de la population dans bien des endroits, disparaissent, il n'y a pas d'industrie non plus, qu'est-ce qui va se passer? C'est une catastrophe sociale qui se profile de manière considérable, une perte d'autonomie qui va conduire à une catastrophe totale. Donc il faut concilier, il ne faut pas qu'on aille plaquer là-bas le modèle agricole qui s'est développé chez nous, surtout pas.
Si on veut aller vers une agriculture sans pesticides ou avec moins de pesticides, il faut déjà abandonner le concept de standardisation de l'agriculture, le concept de spécialisation, de bassins de monoculture. Il faut aller vers la diversité. Par exemple, le cheptel européen consomme environ entre 38 et 40 et quelques millions, la production de 38 à 40 millions d'hectares qui sont dans les pays les plus pauvres. Si les vaches, au lieu de les mettre dans des fermes à 1000 vaches ou davantage, on les met à l'herbe, dans des petites structures, dans des zones de culture diversifiées, où il y a de l'agriculture, de l'élevage, tout mélangé, ça fait une complexité. Cette même complexité rend plus facile l'agriculture. Si on utilise, au lieu d'utiliser des semences standardisées, des plantes, des arbres qu'on trouve un peu partout dans le monde, on plante des semences adaptées à chaque région, le travail que faisaient les paysans avant, hein. Et tout ça, c'est toute une complexité qu'il faut remettre. Si au lieu de cultiver une plante, comme font les cultivateurs de maïs, ceux qui veulent le plus de pesticides, et en particulier des néonicotinoïdes, si on cultive avec une rotation, non pas de 2 ans, comme il se fait beaucoup, mais une rotation qui se fait sur 5-6 ans ou davantage, il y a beaucoup de parasites qui n'ont plus le temps de vivre. Vous avez un parasite spécifique du maïs, et vous faites maïs sur maïs. Ouais. Il se met en terre, et ensuite il ressort, il attend que la plante pousse, et il lui saute dessus. Quand on a rendu obligatoire la lutte contre la chrysomèle, moi j'ai dit à la Direction Générale de l'Alimentation, une réunion où on avait, pourquoi une lutte chimique obligatoire? Une rotation suffit. Mais le directeur de la protection des végétaux à l'époque m'a dit, vous avez parfaitement raison, mais quand je dis ça ici, on n'écoute pas. On peut faire une rotation, on ne veut pas faire de rotation. Alors, il faut mettre cette complexité.
Et c'est avec cette complexité qu'on pourra aller vers moins de pesticides et qu'on aura un milieu, un environnement plus vivant, meilleur pour la santé et une alimentation qui sera meilleure.
Oui, enfin, je rajouterais juste un petit point sur la question moins de pesticides pour nourrir. Oui, pour moi, c'est primordial, parce qu'on peut s'apercevoir aujourd'hui quand même, depuis quand même de nombreuses années, c'est une lutte qui est menée contre ce qu'on appelle les ravageurs des cultures par le biais des insecticides. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une montée en puissance à chaque fois sur le produit. C'est un produit toujours plus violent, toujours plus fort. On a retiré le DDT il y a un certain temps en disant qu'il était dangereux, trop toxique. Aujourd'hui, on arrive à utiliser des produits plus de 10 000 fois plus toxiques que le DDT, et les insectes, malgré tout, résistent. Et on sait que globalement, au bout de 3 ans, les insectes commencent à avoir un phénomène de résistance. Il va falloir passer encore à un produit plus fort. C'est de constant, on va la perdre. Les insectes, ils vont bien la gagner, même en plus. Les insectes dits ravageurs. Donc je crois qu'aujourd'hui, c'est un échec, cette stratégie du tout insecticide, tout pesticide. Il faut revoir, il faut travailler avec les auxiliaires, il faut revoir la chose. Parce que là, nous-mêmes aussi, on va, entre guillemets, excusez-moi, mais laisser notre peau dans l'histoire.
Une autre question?
Le projet de loi sur la biodiversité qui doit être étudié en mars va réintroduire la notion de préjudice écologique. Et je voulais savoir si ça donnait des armes à des acteurs tels que vous-même pour lutter contre Bayer qui attaque l'Union européenne quand elle se mêle de restreindre la vente de ses produits.
Je crois que tout le monde sèche. Mais aussi pour un peu parler du milieu quand même qui est dégradé, je crois que j'ai pas dû citer l'exemple, j'ai dû en parler en aparté tout à l'heure à certaines personnes, concernant l'abeille et pas que les abeilles. Hein. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, les ruches, en gros, une ruche, ça vit 2 ans et puis ça va pas plus loin. Donc une reine meurt au bout de 2 ans, ce qui était quand même un gros problème. Jadis, on avait sur le territoire 5% de pertes, on en arrive à 30, c'est une catastrophe. Mais il y a quand même quelque chose qui nous montre que tout n'est pas perdu quelque part. Quand vous regardez l'île de Ouessant, et c'est un conservatoire d'abeilles, il y a des abeilles, c'est pas des abeilles si extraordinaires que ça. C'est des abeilles qui étaient il y a une trentaine d'années en centre-Bretagne. Un certain nombre de colonies ont été ramenées sur Ouessant, et elles sont demeurées là, elles sont reproduites, et bon, et maintenant le cheptel a augmenté, je sais plus, il y aura une centaine, enfin qu'importe le chiffre. Mais là-bas, on est toujours dans un milieu, je dirais, où il n'y a pas d'agriculture, hein. L'océan est à côté, il y a les vents dominants d'ouest, ce qui les protège, ce qu'on parle des poussières qui se répandent, etc. Là-bas, globalement, ils ont entre 1 à 3% de pertes par an sur les colonies, chiffre très très bas. Les reines vivent toujours 5 ans et pondent magnifiquement bien pendant 5 ans, un taux de reproduction magnifique. Vous ramenez ces mêmes colonies sur le territoire, que ce soit en Bretagne ou à l'autre bout de la France, qu'importe où vous les ramenez, elles se comportent à l'identique sur ce qu'on vit à l'heure actuelle sur le continent. Elles ne vivent pas plus de 2 ans, les reines, effondrement, vous avez les mêmes phénomènes. Donc, dès lors que vous êtes quand même sur un lieu que j'estime privilégié, l'abeille se porte bien. Vous la ramenez, je dirais, où on est tous aujourd'hui quasiment exposés, à s'effondrer. C'est bien l'environnement qui est fortement dégradé. Et qu'est-ce qu'on y trouve, c'est vrai? C'est les pesticides. Alors, le paradoxe, juste, je vais vous donner un petit paradoxe, parce que c'est assez, je dirais pas cocasse, mais... Il y a quand même, on a voulu faire un état zéro de ces fameuses colonies sur Ouessant en disant c'est un milieu clean quoi, on va voir qu'est-ce qu'on y trouve. Donc analyse de tout ce qu'on pouvait y trouver. Donc on a quand même trouvé quelques petites traces dernièrement de pesticides mais qui nous viennent du Canada. Donc vous voyez, ça voyage quand même. Hein. Donc quand on vous dit que ça se déplace, mais bon, à des doses très réduites. Mais on y trouve des traces de pesticides qui viennent du Canada. Et le paradoxe, c'est qu'on a trouvé des traces d'hydrocarbures, alors monstrueuses. Vous pouvez analyser des ruches qui se trouvent en ville ou ailleurs où on peut penser qu'on va trouver des traces liées au véhicule. Bon, alors ce sera en deçà. Les championnes, je dirais, entre guillemets, de pétrole, c'est les ruches que vous trouvez à Ouessant. L'explication, elle vient du dégazage des bateaux en mer, hein, au large, les embruns qui ramènent sur les végétaux, sur l'île, sur les bruyères, sur les ajoncs, et c'est relativement chargé en pétrole. Bon, je ne vais pas dire le pétrole c'est bon pour la santé, mais là ça n'affecte pas les abeilles.
J'ai bien entendu votre question, mais elle était portée aussi sur le point de vue, si on peut demander un dédommagement à l'industrie,
Voilà, enfin, si le préjudice écologique, s'il est inscrit dans la loi, va vous donner des armes juridiques pour contrer les chimistes. Comme le préjudice écologique a eu raison de Total après la marée noire, je ne sais même plus laquelle.
C'est tout nouveau, mais il y a eu 2 procès au sujet des néonicotinoïdes intentés par les apiculteurs. Il y a un au tribunal de grande instance de Saint-Gaudens contre Bayer BASF. Le premier juge d'instruction, qui avait perquisitionné au ministère un peu partout, était convaincu qu'il fallait aller à l'audience. Il a eu une mutation à Mayotte. Peu de temps après, il y avait au tribunal de grande instance de Paris, même chose, et le juge d'instruction a été nommé à Tahiti. Dans les 2 procès, il y a eu... Non, à Saint-Gaudens, il y a eu 3 juges d'instruction, 3 procureurs. Les 2 premiers étaient convaincus qu'il fallait aller à l'audience. Les 3e n'ont lieu. Et il y avait quand même énormément de données. Un petit exemple, Monsieur Bustaen, je crois qu'il s'appelait, le PDG de BASF a juré, en levant la main comme ça, toute sa vérité, que son produit n'était pas systémique, donc les abeilles ne pouvaient pas le consommer en ses résidus. J'ai déposé à l'instruction la publicité de BASF aux États-Unis, avec le régent, en première page, 4 pages en couleur, première qualité, la systémie du produit. On met ça, on met tout un tas de documents et des preuves à l'appui, mais ça a été classé sans suite. Même chose au tribunal de grande instance de Paris, et pour le moment, c'est en cours de cassation. Donc, c'est très difficile, avec des dossiers, celui de Paris, il y a beaucoup d'éléments dans le dossier, mais il y a une expertise qui était totalement catastrophique, c'est une parodie d'expertise. On n'a pas voulu nous accorder une contre-expertise parce que, soi-disant, les éléments que nous apportions étaient dans le dossier, mais le juge d'instruction, au final, n'a pas pris les éléments du dossier, a pris les éléments d'expertise, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment très difficile d'avoir quelque chose sur le préjudice. Et en plus, s'agissant d'abeilles, on vous dit, mais l'abeille, elle visite des milliers d'hectares autour de ses ruches. Comment voulez-vous prouver que c'est à tel endroit qu'il y a eu quelque chose qui s'est intoxiqué? Pour l'instant, on est là, c'est excessivement difficile.
Si on sèche un peu sur cette question, c'est parce qu'on ne sait pas ce qu'il y aura comme disposition sur le préjudice écologique. Tout dépendra du travail du législateur. Hein. C'est pas ici qu'on va dire que le travail du législateur n'est pas essentiel. Et on ne doute pas qu'il y ait des résistances de certains groupes d'intérêt pour qu'il y ait peu de dispositions, mais on compte beaucoup sur des sénateurs comme Joël et les députés.
Est-ce qu'on peut dire dans le domaine, et dans ce domaine-là, on a une ministre extrêmement volontariste?
Oui.
Voilà, là, après on verra, on attend. Et puis après, ça dépendra aussi du Parlement, comment nous... Alors, c'est aussi notre rôle, notre capacité à convaincre. Voilà. Est-ce qu'il y a... S'il n'y a pas d'autres questions... Si, une question là-bas.
Bonjour, Lucas Fourquet pour France 2. J'avais une question concernant... à poser à M. Jean Sabanche et à vous, M. Labbé. J'aurais aimé savoir si vous avez dit que la Confédération paysanne se battait depuis plusieurs années pour interdire les néonicotinoïdes. J'aurais aimé savoir depuis quand et surtout, vous remarquez, on est une grosse vingtaine dans la salle. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est un peu David contre Goliath ou alors le fait qu'un sénateur comme M. Labbé se soit emparé du sujet, ça vous donne espoir et vous avez l'impression de rassembler de plus en plus de personnes?
Je n'ai pas bien compris.
Vous voulez que je répète?
Oui, c'est un affrontement qui est difficile. Les fabricants ont énormément de relais, ils savent manier l'argument économique. Hein. C'est aussi pour ça que j'avais tenu à parler du cas particulier des fruits et légumes, parce que il y a effectivement la dimension économique à évoquer. Simplement, il faut pas. Toute la difficulté, c'est de réussir à contrer l'argument selon lequel la compression des coûts de production serait la seule façon d'envisager l'avenir de la production alimentaire, quoi.
Oui, s'il vous plaît.
Pour ma part, avec humilité et modestie, mais de très fortes convictions, faire en sorte que ce débat puisse avoir lieu ici, déjà, qu'il soit porté, qu'il soit défendu, qu'il y ait une mobilisation de la société civile et qu'on démontre que les politiques peuvent travailler avec la société civile, font que ce sont des débats qui n'auraient pas eu forcément lieu. Moi, je me dis ici, toujours humblement, mais quand même je le dis, je suis ici pour pas rester les mains dans les poches et les sujets, parce que je m'intéresse beaucoup aux sujets agricoles et alimentaires, et cela d'un point de vue planétaire, parce que je suis aussi citoyen du monde militant, eh bien, sur ce type de sujet, je ne lâcherai pas. Par exemple, s'il y avait très malheureusement, je n'y crois plus, parce que je suis tellement convaincu, un vote négatif au Sénat la semaine prochaine, je ne lâcherai pas quand même. Et on a commencé à discuter avec des Belges. C'est mettre les populations en ébullition positive. La question dont parle Pierre Rabhi, de la rébellion des consciences, est-ce qu'on peut continuer comme ça? Est-ce qu'on peut continuer à nous dire on n'y peut rien parce que la Commission européenne coince, parce que ceci, cela? Donc il s'agit véritablement là de porter le débat, et sur le fond, c'est faire en sorte que les politiques se remettent à faire de la politique, à savoir, ce n'est pas les financiers ni les puissances économiques qui doivent décider, c'est les politiques qui décident, en relation évidemment avec le monde économique et tout ça, mais par contre, les politiques se doivent de reprendre la main. Là, on est sur un sujet gravissime. En face, il y a des forces qui ont énormément de moyens. Mais malgré tout, on a la parole libre. Et je peux vous dire, moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, et les temps d'après, parce qu'on ne va pas en rester là. Alors, lorsque vous disiez tout à l'heure, David contre Goliath, ça fait qu'une vingtaine de personnes dans la salle, pour moi je suis très satisfait, ça fait déjà 20 personnes, et les médias intéressés, et pas n'importe lesquels, eh bien vous êtes là, alors après, moi je mets la balle aussi dans votre camp, votre responsabilité, nous et la société civile, la société civile déjà convaincue a besoin de vous pour faire en sorte que l'ensemble de la population soit informée, puisse reprendre ses propres responsabilités de citoyen. Et derrière tout ça, c'est avoir envie de revenir voter, d'interpeller ses élus plutôt que de les laisser de côté ou de partir vers des solutions extrêmes qui ne sont surtout pas du tout souhaitables. Alors voilà, maintenant, il y a ceux qui sont sur des émissions qui auront lieu plus tard, mais ceux qui font l'actualité parmi vous, on compte sur vous et on a besoin de vous là, juste dans les jours qui viennent avant le 4, pour que mes collègues, que je vous dis, je les respecte, ils soient interpellés et les choses ne puissent pas se passer comme ça, je ne savais pas. Moi, la réponse, c'est de leur dire, vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas. C'est la question de la responsabilité.
Et est-ce que personnellement, vous avez le sentiment que les politiques ou plus généralement la population se sent de plus en plus concernée par ce sujet ou pas?
Alors, la population mobilisée va beaucoup plus loin et plus vite que les politiques. Je parle d'une partie qui n'est pas majoritaire de la population, mais le reste de la population, tellement préoccupée par un tas de choses, et puis il y a ce qu'on leur met également sur les détails de vie privée ou de je ne sais qui, le show business politique. Maintenant, si véritablement la population a les éléments, pour moi on est dans un tournant. On parle de transition énergétique, on parle de transition écologique. Pour moi, on doit être aussi en transition politique. Pour moi, on ne doit plus faire la politique comme on la faisait. Je crois qu'il n'y a pas de modèle, nouveau modèle à réinventer, à inventer. Le côté collaboratif, alors moi je le pratique. C'est fantastique de travailler comme ça. Et comme cela, on se reconnecte complètement avec la population. Alors, pas d'une façon démagogique, parce qu'il faut quand même des idées politiques, on ne va pas faire un référendum là-dessus. Quand on a des convictions et qu'on s'appuie sur la société civile mobilisée, eh bien on avance, et ça c'est le, c'est le collaboratif et ça marche drôlement bien. Et là, les gens, sur ce type de résolution, quelque part, pour les gens anodines, ça pourrait passer inaperçu. Eh bien, ça, c'est un signe. Si on réussit à faire passer ça, dans le Sénat, ça fera un petit événement. Et moi, je me fais un devoir de le faire passer. J'aime le risque. Et donc, on va voir, mais d'ici là, je vais encore mettre le paquet.
Pour répondre à la première question que je n'avais pas bien entendue, ce qu'on a pu faire au niveau européen, les organisations apicoles, on s'est retrouvé à une dizaine d'apiculteurs représentant diverses organisations de 4 ou 5 pays, et on avait fait le constat que de toute façon il fallait agir au niveau européen sur les pesticides et abeilles. Et on s'est donné les moyens d'avoir des petits moyens de payer quelqu'un à mi-temps au niveau européen pour intervenir auprès du Parlement, auprès de la Commission européenne et en même temps auprès de l'agence européenne, l'EFSA. Ça a été un peu difficile, on a trouvé des politiques qui nous ont soutenus, on a trouvé des chercheurs qui sont venus, on a fait un congrès, on a amené des informations. Au tout début, on nous demandait qui êtes-vous, qu'est-ce que vous faites, portez-nous, on a fait amener nous des chercheurs qui soutiennent ce que vous dites. On a fait tout ça et petit à petit, s'il y a eu cette interdiction partielle de 3 molécules, si on n'avait pas fait ça, ça n'aurait pas. On n'a pas gagné tout seul, c'est pas vrai. Mais si on n'avait pas été là pour lancer le mouvement, pour faire comprendre aux gens que le débat et les informations qu'ils avaient, qui étaient apportées par l'industrie, ne correspondaient pas à la réalité, que les règles d'évaluation des pesticides, qui sont faites à 90% par l'industrie, et on a obligé aussi l'agence européenne à dire, à faire reconnaître par des chercheurs que les méthodes d'évaluation des pesticides sur les abeilles étaient mauvaises. Si une dizaine de personnes ne s'étaient pas réunies pour faire ça, ouais, je ne sais pas si on y serait arrivé, je ne crois pas.
Et des politiques
pourraient... Et les politiques, non, mais les politiques nous ont soutenus s'ils n'avaient pas été là. Si les politiques n'avaient pas été là et si les chercheurs ne nous avaient pas soutenus, on ne serait pas arrivé non plus.
Alors, parce que cette résolution, on n'est pas tout à fait entre nous, mais on est entre nous quand même, cette résolution, elle peut déranger le gouvernement. J'ai eu quelques échos parce qu'elle va trop vite, trop loin. Parce que le ministre a sa stratégie, alors on est toujours dans les stratégies avec la Commission européenne. Moi qui, comme beaucoup d'entre vous, est quelqu'un de pressé, sentant l'urgence, on a envie de bouger. Alors, si ça bouscule un petit peu la stratégie du gouvernement, à mon sens, il faut que le gouvernement le prenne comme quelque chose de positif, avec sa population mobilisée, avec ses parlementaires mobilisés, et bien que le gouvernement soit sollicité pour faire bouger la Commission européenne. Et je vous le dis, il ne faut pas qu'il y ait que le gouvernement français. Alors dans la foulée, il faut qu'on travaille sur les autres pays également.
Un mot sur cette dimension européenne.
Je rajouterais quand même un petit mot dans le sens de Joël Labbé, qu'on peut lui dire, il bouscule, il va vite. Pour moi, non, il ne bouscule pas. C'est la réalité des choses aujourd'hui. Il faut oser, il faut y aller. Je citerai un peu un dossier sur lequel j'ai travaillé par le passé. J'ai travaillé sur l'amiante. On a mis près d'un siècle avant de supprimer l'amiante. On a fait des milliers de morts. Et ça, je trouve dramatique. Si on peut gagner 6 mois, 1 an, ce sera énorme. On épargnera des vies, on limitera des dégâts. Pour moi, on ne va pas trop vite. Il est grand temps de faire quelque chose.
Je voulais juste dire un mot, si on a encore le temps, sur la dimension européenne. Je suis aussi président du réseau européen Pesticide Action Network. Et je pense qu'on peut s'engager à essayer de répercuter auprès des autres gouvernements ce type de résolution, voilà. Et c'est très important. J'espère vraiment que cette résolution va être adoptée, parce que si la France, le gouvernement français l'adopte, on pourra se saisir de ce texte, voter, pour aller, nous, avec nos confrères, nos collègues des 32 autres pays qui ont des associations dans le réseau Pan-Europe, pour dire, maintenant, vous, gouvernement anglais, gouvernement allemand, gouvernement hongrois, faites la même chose que ce qu'a demandé le Parlement français à son gouvernement, et agissez. Donc il faut un exemple. La France a voulu avoir un profil assez élevé dans ce dossier et se montrer exemplaire. Maintenant, il faut qu'il continue. Il ne faut pas que ce soit l'histoire d'un jour. Et finalement, tu le disais, ce n'est pas une révolution, c'est une résolution. je dirais même que c'est une évolution, ce n'est pas une révolution. On demande au gouvernement non pas une obligation de résultat, mais une obligation de moyens. On leur demande d'agir en concordance avec leurs opinions et avec leurs déclarations. C'est donc tout à fait raisonnable. C'est pour ça que je pense que cette résolution sera adoptée. Si elle ne l'était pas, ça voudrait dire qu'il y a un double discours au niveau de l'exécutif. Ce serait absolument insupportable. Je ne peux pas imaginer ça. Et on va aider tous ensemble, on va t'aider, Joël, pour que les chers parlementaires puissent voter en leur âme et conscience également. J'espère qu'il n'y aura pas une discipline de fer qui va tomber sur les parlementaires de haut en bas, mais que chaque parlementaire pourra voter en son âme et conscience. Et là, j'ai pas de doute que dans ce cadre-là, ils soutiendront cette résolution.
Il y a une nuance très importante pour finir. C'est pas au gouvernement de décider. Là, justement, la séparation, le pouvoir parlementaire, là, on est en plein dedans. Les gens disent à quoi vous servez. On réussit à faire passer ça. Là, les parlementaires sont dans leur rôle. Et après, je suis convaincu que si le gouvernement, ça doit arranger le gouvernement. Mais là, après, comme ils sont dans des stratégies européennes et il ne faut pas trop bouger, parce que maintenant, il est temps de bouger, il y a urgence à bouger. Les populations nous le demandent. Et il y en a qui ne s'expriment pas beaucoup. C'est les jeunes populations. Moi, j'ai beaucoup confiance dans la jeune génération, mais à condition qu'on leur donne les éléments. Voilà, c'est le mot de conclusion, parce qu'il y a un moment où il faut s'arrêter. Alors, nous aussi, on compte sur vous.